Alors, je pense, avant de contempler cette passion de notre Seigneur, il me semble qu'il est bon de rappeler rapidement quelques vérités sur la rédemption. La rédemption, donc ce rachat opéré par notre Seigneur, est vraiment une œuvre merveilleuse. On peut dire que c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Chef-d'œuvre de Dieu qui, on peut ainsi parler, refait l'homme qui est défiguré par le péché. Donc la rédemption remet l'homme qui a été défiguré par le péché et le remet, dans un certain sens, dans un état meilleur que celui qui a précédé sa chute. Et oui, ça vous surprend peut-être, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Église qui nous le dit dans la liturgie, car elle ne craint pas de bénir, pardon, la faute qui nous a valu un tel rédempteur. Évidemment, vous savez tous, c'est l'exultète le samedi saint dans la veillée pascale. Ô heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Donc ça veut dire clairement, effectivement, eh bien que la rédemption remet l'homme dans un état meilleur que celui qu'il avait auparavant, avant la chute. Et quand on contemple aussi notre Seigneur dans sa passion, il faut justement se dire qui souffre? Qui voyons-nous souffrir? Eh bien, toujours se rappeler évidemment que c'est Jésus-Christ. Vous avez une conférence, une instruction sur Jésus-Christ, mais se dire Jésus-Christ, c'est vrai, c'est le Fils unique de Dieu, fait homme pour nous sauver. Donc ça veut dire, celui qui souffre, on va voir, c'est Jésus, l'innocence et la sainteté même. Oui, celui qui souffre comme ça, il est innocent, il est saint. Il possède une souveraine majesté. Il est la splendeur du Père. Il est consubstantiel et égal à lui. Il est roi de gloire, donc vrai Dieu, tout simplement. Dieu, véritable Dieu. Eh bien, lui, Dieu, va s'abaisser pour nous, jusqu'à supporter les outrages et les tourments les plus affreux. Comme un malfaiteur, comme un criminel. Donc toujours avoir cela présent à l'esprit. Oui, celui qu'on voit souffrir, c'est vraiment Dieu. Splendeur du Père. Et donc c'est Jésus infiniment bon qui a passé sur cette terre en faisant le bien. Il n'y a qu'à lire les évangiles, assistant les misérables, délivrant les possédés, consolant les affligés, guérissant les malades, etc. C'est lui, infiniment bon, qui va avoir comme récompense de sa bonté par les hommes un gibet, une croix. Oui, c'est Jésus qui va souffrir, lui qui nous a aimés jusqu'à la fin, en nous laissant un suprême et divin témoignage de son amour, la Sainte Eucharistie. On vient de vous en parler, je ne recommencerai pas, mais c'est lui qui nous a aimés jusqu'en nous laissant sa présence réelle dans la Sainte Eucharistie, inventant ce moyen extraordinaire pour renouveler, réactualiser son sacrifice. Donc vraiment, charité infinie de notre Sauveur, charité infinie. Oui, bien garder à l'esprit tout cela. Quand on contemple la passion de notre Seigneur, oui, c'est vraiment Dieu. C'est lui si bon qui accepte d'être traité comme il l'a été. Deuxième question vis-à-vis de la rédemption, donc qui souffre. Deuxième question, pourquoi souffre-t-il? Dans quel but? Quel est son but? Pourquoi? Eh bien, d'abord et avant tout, c'est par amour pour son Père. Oui, c'est par amour pour son Père que Jésus a voulu subir la mort de la croix. C'est le premier but. Et il le dit explicitement, afin que le monde sache que j'aime mon Père, j'accomplis sa volonté. Oui, accomplir la volonté de son Père, eh bien, montre au monde qu'il aime son Père. Donc il va réparer en souffrant, eh bien, toutes les injures que lui ont faites nos péchés. Et il apaise ainsi la colère de Dieu, la juste colère de Dieu, la justice de Dieu. Et cette immolation, eh bien, procure à Dieu aussi la gloire infinie qui lui est due. Toujours Dom Marmion a toujours de très belles pages à ce sujet. Là, c'est dans Christ, dans ses mystères. Voilà ce qu'il dit. Ô Père, que votre volonté soit faite et non la mienne. Donc, ce que dit notre Seigneur au Jardin des Oliviers. C'est ici le triomphe de l'amour. Parce qu'il aime son Père, il met la volonté de son Père au-dessus de tout et il accepte de tout souffrir. Effectivement, vous savez que quand on aime quelqu'un, on fait la volonté de la personne que l'on aime. Oui, on veut le bien de la personne. Eh bien, qu'est-ce que veut cette personne? Tiens, cette personne veut ça, donc je vais le faire. Donc c'est ainsi qu'on marque l'amour que l'on a pour une personne en accomplissant sa volonté. Et donc là, c'est bien ce que cherche à faire notre Seigneur. Remarquez que le Père aurait pu, s'il l'avait voulu dans ses desseins éternels, atténuer les souffrances de notre Seigneur, changer les circonstances de sa mort. Il ne l'a pas voulu. Dans sa justice, il a exigé que pour sauver le monde, le Christ se livra à toutes les douleurs. Cette volonté a-t-elle diminué l'amour de Jésus ? Certainement non. Il ne dit pas « Mon Père aurait pu arranger les choses autrement ». Non, il accepte pleinement tout ce que veut son Père. Non pas ma volonté, mais la vôtre. Il ira désormais jusqu'au bout du sacrifice. Ainsi donc, c'est avant tout l'amour pour son Père qui pousse le Christ à accepter les souffrances de la Passion. C'est le premier but. Pourquoi ? D'abord par amour pour son Père, pour réparer les outrages qui ont été faits à son Père à part nos péchés. Deuxième but, évidemment, celui qu'on voit peut-être un peu plus, c'est l'amour qu'il nous porte. Évidemment, notre Seigneur va souffrir sa Passion par amour pour nous. C'est-à-dire, il prend sur lui la peine que méritaient nos péchés, nos crimes. Et c'est lui qui va les expier lui-même, et il va nous obtenir par là, eh bien, le pardon et le salut. Donc on obtiendra le pardon, le salut. Là aussi, je continue Dom Marmion. À la dernière scène, quand va sonner l'heure d'achever son oblation, que dit-il à ses apôtres réunis autour de lui ? Il n'est pas d'amour plus grand que celui de donner sa vie pour ses amis. Et cet amour qui surpasse tout amour, Jésus va nous le montrer. Car, dit saint Paul, c'est pour nous tous qu'il s'est livré. Il est mort pour nous alors que nous étions ses ennemis. Quelle marque plus grande d'amour pouvait-il nous donner ? Aucune. Ainsi, aussi, l'apôtre ne cesse-t-il de proclamer que c'est parce qu'il nous a aimés que le Christ s'est livré. À cause de l'amour qu'il m'a porté, il s'est donné pour moi. Et livré, donné, dans quelle mesure ? Jusqu'à la mort. Et ce qui rehausse infiniment cet amour, c'est la liberté souveraine avec laquelle le Christ Jésus s'est offert. Il s'est offert parce qu'il l'a voulu. Ces deux mots nous disent combien spontanément Jésus a accepté sa Passion. N'avait-il pas dit un jour en parlant du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, « Mon Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre le jour de ma résurrection. Personne ne me la ravit de force, mais je la donne de moi-même. » J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Cette liberté avec laquelle Jésus donne sa vie est entière, et c'est là une des plus admirables perfections de son sacrifice. Un des aspects qui touche le plus profondément notre cœur humain, Dieu a aimé le monde à ce point qu'il lui a donné son Fils unique. Le Christ a aimé à ce point ses frères qu'il s'est spontanément livré tout lui-même pour les sauver. Voilà dans quel but notre Seigneur va souffrir sa Passion. Pour l'amour de son Père et pour l'amour qu'il nous porte. Voilà donc ces rapides, quelques petites vérités sur la rédemption, avant d'aborder bien maintenant le déroulement même de la Passion. Une des preuves de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'accomplissement des prophéties. et tout au long de l'histoire sainte. Donc les prophètes ont décrit d'une certaine façon, par quelques images, par quelques textes, comment allait se comporter le Messie, à quel endroit il allait naître, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va souffrir, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie. Et vous avez justement, au niveau de la passion, eh bien celle-ci a été prédite. Vous avez deux textes particuliers. D'abord le psaume 21 de David. Donc, je vais vous lire juste quelques bribes. Donc ce psaume 21, nous le disons au bréviaire le vendredi à prime. Vendredi matin à prime, à l'office de prime. C'est celui qui commence par ces paroles que vous connaissez. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Et moi, ver et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête. Il s'est remis au Seigneur qu'il le délivre, qu'il le libère puisqu'il est son ami. Donc ça, c'est écrit par David, hein, c'est-à-dire à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Comme l'eau, je m'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes viscères. Mon palais est sec comme un tesson et ma langue collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os, les gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Vous voyez, c'est... notre Seigneur a vraiment... mis à la lettre, a accompli à la lettre cette prophétie de David du psaume. Et puis l'autre texte concernant la passion, admirable, c'est le chapitre 53 du prophète Isaïe. Donc là, je vous lis juste du verset 2 au verset 11. Donc Isaïe, c'est le 7e siècle avant Jésus-Christ. Oui, à cheval entre 8e et 7e. Comme un surgeon, il a grandi devant lui comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards et sans apparence qui nous eût séduit. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence, et bien qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Et par lui, la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Prophète Isaïe. Vous voyez, c'est admirable, un beau texte. On croit voir l'évangile, le cinquième évangile, souvent on a cité ce passage comme... On le dit comme le cinquième évangile. On a l'impression d'avoir une description de la passion de notre Seigneur. Un très beau texte. Donc, vous voyez, j'espère que ça vous fait goûter aussi un peu plus l'écriture sainte dont nous avons parlé. De textes admirables. Alors que fait notre Seigneur après la scène? Donc après la scène, avec ses disciples, il part sur Gethsémani, donc le jardin des Oliviers. Notre Seigneur avait l'habitude de se retirer dans ce jardin. C'est pour ça que Judas saura le trouver au bon endroit. Et pendant le trajet, bon, peut-être à la fin de la scène et puis aussi pendant le trajet, il fait ce magnifique discours qu'on appelle le discours après la scène, tout simplement, qui est tout simplement son testament, le testament de notre Seigneur. Magnifique discours. Alors là, évidemment, je peux que vous conseiller de le lire, de le méditer. C'est Saint Jean, chapitre 13, verset 31, jusqu'au chapitre 17 inclus. Chapitre 17 étant ce qu'on appelle la prière sacerdotale de notre Seigneur. Donc chapitre 14, 15, 16, 17, et puis la fin du chapitre 13. C'est le testament. Vous savez, quand, bon, je pense qu'on a tous été concernés, quand on perd une personne qui nous est chère, évidemment la première chose qu'on essaie de penser, c'est qu'est-ce qu'elle m'a dit, quelle est la dernière parole que j'ai entendue de sa bouche, quels sont ses derniers écrits, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit. Eh bien, on cherche le testament. Et souvent, le testament, eh bien ensuite, on le garde précieusement. Eh bien, le testament de notre Seigneur, c'est ce fameux discours après la scène. Je ne vais, pas vous le lire, mais c'est là où il parle, il se compare à la vigne. Que votre cœur ne s'outrouble pas, je vous donne mon commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ensuite, il nous met en garde contre le monde. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, etc. Bon, magnifique discours. Donc, après ce discours, notre Seigneur va se retirer dans le jardin avec toujours ses trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Ces trois apôtres qu'il avait déjà pris pour la résurrection de la fille de Jaïr. Donc cette petite fille, quand notre Seigneur va la ressusciter, on lui dit, alors que bien sûr il y a tout le monde autour, elle est morte, à l'époque il y avait tout, les pleureuses et compagnie, et notre Seigneur dit, bah, écoutez, partez parce qu'elle dort. Alors évidemment on commence à se moquer de lui, et tout le monde s'en va, sauf il prend avec lui donc toujours Pierre, Jacques et Jean. Et ensuite ces trois apôtres aussi seront présents lors de la transfiguration, et là ils seront présents aussi à l'agonie. Bon, vous savez toujours les raisons, hein, les trois, Pierre parce que c'est le chef, Jacques le majeur parce que c'est le premier apôtre qui va verser son sang pour notre Seigneur, premier apôtre martyr, et Jean le plus jeune, le disciple vierge, le préféré de notre Seigneur. Donc il prend ces trois apôtres, et là il va s'éloigner d'un jet de pierre, nous dit l'évangile, et il va rentrer en agonie. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et notre Seigneur s'éloigne un peu. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Comment on peut concevoir cela? Lui qui est fils de Dieu, dire mon âme est triste jusqu'à la mort. Et là, pendant une heure, il va avoir cette agonie, ce combat. Il va prier son Père. Mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, mais que votre volonté se fasse et non la mienne. Alors vous voyez, déjà dans cette prière de notre Seigneur, on le voit toujours chercher la volonté de son Père. Mais il y a quelque chose d'utile pour nous, c'est qu'il est permis de demander la fin d'une épreuve. Mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Mon Père, mon Dieu, s'il est possible, éloignez cette souffrance de moi. Guérissez-moi, ôtez-moi la guérison, la conversion d'un tel, de telle personne, etc. Donc nous pouvons tout à fait, il est tout à fait légitime de demander sa guérison, demander la guérison de telle ou telle personne. Mais, et c'est là qu'il faut suivre notre Seigneur jusqu'au bout, même que votre volonté soit faite et non la mienne. Donc il y a aussi ici toute la résignation chrétienne, la patience chrétienne à l'image de notre Seigneur. Mon Dieu, oui, si possible, il y a une escalice, mais que votre volonté soit faite. Une belle leçon pour nous. Donc il prie, et puis au bout d'une heure, il se relève, il va revoir ses apôtres. Ben, eux, ils se sont endormis. Bon, off, on a l'habitude, hein. Il fait nuit, il passe la nuit en prière, nous on ne peut pas, donc allez hop, on dort. Eh oui, malheureusement, notre Seigneur n'a pas pu s'appuyer sur ses apôtres, sur ses amis. Alors notre Seigneur repart et continue son agonie, agonie réelle, puisque Saint Luc, qui est médecin, note la sueur de sang, une sueur de sang. bon, peut-être parmi vous, certaines sont médecins ou infirmières, enfin, paraît-il qu'effectivement, c'est réel, ça se produit quand il y a vraiment une très grande souffrance morale, très grande tension nerveuse, donc tous les petits vaisseaux claquent, et donc c'est vraiment une sueur de sang qui coule. Donc on voit vraiment ce combat de notre Seigneur. Agonie veut dire combat. C'est le combat de la vie contre la mort. Et justement, quelles sont les sources? Pourquoi notre Seigneur a tant souffert dans cette agonie? Eh bien, on peut voir trois raisons principales. D'abord, notre Seigneur se voit chargé de tous les péchés. Devant son Père, il se voit chargé de tous les péchés de tous les hommes. Péchés passés, présents et futurs. Tous les crimes, l'idolâtrie, les sacrilèges, toutes les pires choses, et toutes les impuretés, les péchés de toutes sortes, tout ça, ben, il le prend sur lui. Il le prend sur lui. Eh bien, on peut voir, on peut imaginer un peu le fardeau et puis surtout le dégoût qu'a dû subir notre Seigneur. Alors, c'est difficile de sentir ça, parce que nous, malheureusement, souvent devant le péché, le dégoût... Malheureusement, on y tombe trop facilement, donc on a du mal à y voir du dégoût. Et pourtant, alors aux enfants, souvent on disait comme, bah, alors parce que ça les effraie, mais imaginez, vous tombez dans une fosse à purin. Ben, je dis, mais ça c'est rien, c'est extérieur, après on prend une bonne douche et c'est fini. Tandis que là, non, notre Seigneur, c'est pire que ça. C'est sur son âme, il prend ça sur lui. Alors, je sais pas, imaginez l'enfer sur cette terre. Un concert de rap, avec la haine, le blasphème, tout ce qu'il peut y avoir de pire, tous les viols et compagnie. Ah, Burke, eh bien, imaginez ça, notre Seigneur qui voit tout ça, qui prend ça sur lui. Quoi. Ah, notre Seigneur qui est l'innocence même, la pureté même, il prend tout ça sur lui. Je crois que, je ne sais pas, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas se rendre compte de ce que ça peut être. Mais il faut avoir le dégoût du péché, justement, pour comprendre ce que c'est. Donc ça, certainement, ça a été une douleur immense, immense, immense. Saint Paul va jusqu'à dire que notre Seigneur s'est fait péché pour nous. Il a des termes forts. Il s'est fait péché pour nous. Donc quand on l'imagine, Dieu, immaculé, vraiment, il prend ça sur lui. Deuxième raison pourquoi notre Seigneur souffre tant, eh bien, il voit aussi, je pense, tout simplement, clairement, les souffrances qui l'attendent. Ça aussi. Tout ce qu'on va voir, la flagellation, tout ce qui va subir, la mort, la croix, il y a la nature humaine qui se rebelle, qui en souffre d'avance. Ça, c'est déjà peut-être plus facile à concevoir. Je vais chez le dentiste. Oh ! Ben oui, on en souffre d'avance. La roulette, le nerf, on en souffre d'avance. Et ben, je veux dire, notre blessure à la puissance X, 1000, à l'infini, ben notre Seigneur a souffert par avance de ce qu'il allait souffrir précisément. Et puis, troisième raison de son agonie, de sa souffrance, peut-être aussi terrible, enfin on a du mal à voir quelle est la raison la plus terrible, c'est de voir l'inutilité et la stérilité de tant d'amour, de tant de travaux, de tant de souffrances pour tant d'hommes, pour tant d'âmes. Effectivement, il va voir l'impénitence de Judas, du mauvais larron, des damnés, l'apostasie des nations, persécution contre son Église, péché de tant de chrétiens infidèles. Et ça doit être horrible aussi. C'est-à-dire, je fais tout pour eux, pour ces âmes, et voilà que des âmes ne vont pas vouloir en profiter. Non pas comme je disais l'autre jour, parce qu'elles ne savent pas, non, mais c'est qu'elles ne veulent pas en profiter. Comme je disais, les damnés, ils le sont par leur faute. Donc ça veut dire que vraiment, ils n'ont pas voulu profiter des souffrances de notre Seigneur. Ah, et ben, il y a certainement un sentiment d'abattement. J'ai tant souffrir, c'est pour eux, ils n'en veulent pas. Je pense aussi, c'est terrible, quand on peut, de la part de parents, par exemple, voir des enfants qui ne suivent pas l'éducation qu'ils ont pu recevoir. Ah, ça, c'est terrible aussi. C'est une grande souffrance. Eh bien, ça peut donner une idée aussi d'un peu ce que notre Seigneur a pu souffrir. Et là, se dire que pendant son agonie, notre Seigneur nous a vus. Donc, tout lui était présent. Passé, présent, futur. Donc, nous, on se situait dans le futur, mais évidemment, comme Dieu, il nous voyait. Donc, il nous a vus. Alors, qu'est-ce qu'il a pu le faire souffrir ? Eh bien, nos tiédeurs, nos ingratitudes, nos faiblesses, nos péchés. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Je suis la cause de l'agonie, de la souffrance, de l'agonie de notre Seigneur. Il m'a vu, il me voit quand je l'offense. Alors on comprend cette sueur de sang. Et là, encore une fois, notre Seigneur va revenir vers ses apôtres complètement abattus. Simon, tu dors ? Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. À chaque fois, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Eh bien, c'est ce qui est à l'origine des heures saintes, évidemment. L'heure sainte, la dévotion de l'heure sainte, c'est justement pour veiller avec notre Seigneur. Et puis, notre Seigneur va leur dire, bien, écoutez, veillez et priez pour ne point entrer en tentation. Veillez et priez. Vous voyez, il nous donne aussi le mode d'emploi. On aura des tentations, eh bien, pour les éviter, pour ne pas y succomber, veillez et priez. Veillez et priez. Là aussi, l'Évangile nous dit qu'un ange viendra consoler notre Seigneur. C'est le secours qu'il aura quand même. Un ange viendra le consoler. Comment cet ange a-t-il pu consoler notre Seigneur ? Eh bien, certainement en lui présentant les millions d'âmes qui bénéficieront de sa passion. Dire, mais non, voyez, ce que vous êtes en train de souffrir servira à sauver beaucoup d'âmes. Toutes ces âmes qui iront au ciel. Donc certainement, ça par contre, ça a dû mettre du baume un peu sur le cœur de notre Seigneur. Et comme tout est présent à notre Seigneur, eh bien, il a vu et il voit aussi nos bonnes actions. Autant il voit nos infidélités, nos péchés, autant il voit également nos bonnes actions. Nos confessions, nos communions, les efforts, nos efforts, tout cela le console. Donc nous pouvons être l'ange consolateur également, concrètement. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, de bien cette retraite que vous suivez ici, eh bien certainement console notre Seigneur dans son agonie. En disant, ben voilà, il y a 71 dames du 20 au 26 juillet 2003 à Flavigny qui sont acceptées d'être en prison pendant 5 jours. Et qui ont essayé de faire des efforts, eh bien, ça l'a consolé. Alors, courage, courage. Certainement. Donc là, notre Seigneur donc, voit nos bonnes actions. Voilà, donc notre Seigneur revient vers ses apôtres et dit, bon, maintenant, levez-vous, c'est bon. Celui qui doit me livrer arrive. Donc les apôtres, ils ne doivent pas très bien comprendre ce qui se passe. Il se réveille difficilement, il se lève, et puis effectivement, il commence à voir des lueurs dans la nuit, et arrive une petite troupe d'hommes armés, et à la tête de cette troupe, Judas. Judas qui s'approche de notre Seigneur et qui lui donne un baiser. Et notre Seigneur a cette phrase terrible, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Pourquoi notre Seigneur dit-il ça ? Eh bien, sans doute, il essaie de toucher encore, s'il est possible, le cœur de Judas. Certainement comme au lavement des pieds. C'est quand notre Seigneur a lavé les pieds de tous ses apôtres, il a lavé les pieds de Judas qui était encore là. Eh bien, notre Seigneur a essayé d'attirer son regard, a certainement essayé de le toucher en disant « Arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et même quand notre Seigneur va lui dire « Écoute, Judas, ce que tu as à faire, va le faire. » Notre Seigneur montre à Judas qu'il savait très bien ce qu'il allait faire. Donc vous voyez, on voit la grâce, ça ce qu'on appelle la grâce actuelle. Donc ce sont des secours que Dieu envoie, des secours passagers que Dieu envoie. Eh bien Judas en a eu tout le temps. Et là, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ah, je sais pas, il y aurait eu de quoi craquer, quoi. Non, c'est vrai, je suis en train de faire une bêtise, quoi. Et notre Seigneur va se tourner vers la foule. Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth, c'est moi. Pouf, tous à la renverse, ils tombent tous comme un jeu de quilles. Eh oui, tous par terre, ils tombent tous par terre. Je vous ai dit, qui cherchez-vous ? Jésus Nazareth, je vous ai dit, c'est moi. Et là, notre Seigneur se laisse faire. Il se laisse arrêter. Donc à son arrestation, il montre qu'il est le maître des événements. Qu'il reste le maître. Parce qu'avec un mot, donc tous les soldats tombent à la renverse. Il va guérir le serviteur du grand prêtre, Malchus, parce que Saint-Pierre lui va dégainer. Il dégaine son épée. Pfiou ! Un coup, comme ça, il n'est pas très bien réveillé. Hop, c'est l'oreille qui part. Bon. Alors là, bon, remets ton épée au fourreau, c'est pas le moment. Et notre Seigneur guérit Malchus. Un miracle. Les autres auraient pu dire, non, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Non. Ensuite, un autre miracle, qui en est un, il empêche l'arrestation de ses apôtres. Et oui, parce que les apôtres, donc il y avait les trois, puis les autres qui étaient dû arriver, donc ils étaient 11, enfin 12 avec Judas, mais je pense que Judas aurait prêté depuis l'autre, enfin, l'autre position. 11 contre une petite troupe d'hommes armés, ils faisaient pas... Donc ils vont partir. Ils vont partir, bon, Pierre et Jean vont revenir après sur leur pas, ce qui leur permettra d'entrer dans la cour du grand prêtre et de suivre les événements. Donc notre Seigneur est arrêté. Là, il va être conduit chez Anne. Anne, c'est l'ancien grand prêtre. Et c'est un vieillard, pas très fréquentable. Et certainement, on a voulu lui faire plaisir. Donc Anne va le questionner et notre Seigneur va juste lui répondre, mais interroge tous ceux qui sont là, moi j'ai toujours prêché publiquement, j'ai rien à cacher, donc interroge tous ces témoins. Et là, c'est à ce moment-là, un valet va lui donner une claque, c'est comme ça que tu parles au grand prêtre. Et notre Seigneur a cette belle réponse, si j'ai mal parlé, montre en quoi j'ai mal parlé, si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Et ensuite, c'est assez court, il va être conduit chez Caïphe. Caïphe qui a réuni ce qu'on appelle le Sanhédrin, donc l'assemblée des Juifs, qui est vraiment l'assemblée principale. Et là, il a essayé de réunir plein de faux témoins pour essayer de donner faux témoignages. Ils se contredisent tous. Jésus autem tachebat. Mais Jésus se taisait. Jésus ne dit pas un mot. Parce qu'il a affaire devant lui à des gens de mauvaise foi, alors il ne dit rien. Et nous, quand on nous critique, généralement c'est pas ça. On se met plutôt à parler plutôt que de se taire. Et là ensuite, le grand prêtre en a assez, il va dire, je t'adjure au nom du Dieu vivant, dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et là, par contre, c'est l'autorité légitime qu'il adjure au nom de Dieu, alors Jésus répond, « Oui, je le suis. Et vous verrez un jour le Fils de l'homme arrivant sur les nuées, etc. » Et là, le grand prêtre, dans un simulacre, déchire ses vêtements. Que vous en semble, il mérite la mort parce qu'il a blasphémé. Alors qu'au lieu d'adorer son divin juge, son juge, non, il le condamne à mort. Et là, tout de suite, les soldats vont le maltraiter. Ils vont maltraiter, ça va être les crachats, on va le frapper, on va lui bander les yeux. Christ, prophétise qui t'a frappé. Bon, vous pouvez imaginer la scène. Les leçons pour nous, eh bien notre Seigneur ne se plaint pas. Nous, on rend injure pour injure. En général, on ne rend même pas œil pour œil, on rend cent yeux pour un œil, etc. Tandis que notre Seigneur, non. Alors que nous cherchons à nous venger, non. Notre Seigneur souffre. Pendant ce temps, un autre épisode qui est plein de leçons pour nous, dans la cour, pendant que notre Seigneur ainsi se fait injurier, c'est Saint-Pierre, le reniement de Saint-Pierre. Saint-Pierre donc est rentré avec Saint-Jean, donc lui était connu, il rentre, Saint-Jean a pu faire rentrer Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre a quand même voulu rentrer, mais mal lui en prit. Saint Pierre, remettez dans le tableau, quand même, c'est un pêcheur. Un pêcheur, donc quelqu'un de costaud, un baraqué, costaud, donc qui a priori n'a pas peur de grand-chose. Et puis, voilà, donc il commence à aller se réchauffer avec les hommes au milieu du feu, et tiens, comme généralement les femmes savent bien faire, elles observent, et clac, tiens, celui-là, ça me dit quelque chose. Dis-toi, là, tu serais pas un de ces disciples, là, de celui de Jésus, là, qui est en train de se faire juger? Alors lui, le costaud, le baraqué, pioum, ah, il devient une lavette. Il a peur d'une servante. Alors qu'il pourrait il aurait pu lui dire de quoi je me mêle, va à tes fourneaux. Non, il dit, non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne connais pas cet homme. Ah, non, je suis désolé, je ne connais pas, non. Ensuite, il doit sans doute aller un peu plus loin. Et puis là, un garde ou des serviteurs lui dit, bah, toi aussi, tu fais partie d'eux. Ah non, j'assure, je ne connais pas cet homme, etc. Oh, puis toi aussi, et puis derrière, ton accent te trahit. Alors, effectivement, quand on a un accent de midi, on a des difficultés de se faire passer pour des gens du Nord. Ça, c'est sûr. Eh bien, avec son accent galiléen, eh bien, il s'est fait repérer, ça, c'est sûr. Non, il le nie. Il le nie, et là, le coq chante. Le coq chante. Et à ce moment-là, notre Seigneur, donc, qui était au tribunal, va être conduit en prison. C'est à ce moment-là qu'il passe dans la cour et Saint-Pierre se tourne et il voit le regard de son maître. Le regard de notre Seigneur. Imaginez le regard de notre Seigneur sur Saint-Pierre. Ça doit être un regard de reproche, de souffrance. Mais ce regard va bouleverser Saint-Pierre. Autant le regard n'avait rien fait à Judas, autant Saint-Pierre lui va être bouleversé. Il va comprendre. Il entend le coq une deuxième fois. Il se rappelle ce que notre Seigneur lui a dit. « Avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et là, il éclate en sanglots. Il s'en va, il sort, et il se met à pleurer amèrement, signe de son regret. Alors cet épisode de Saint-Pierre est pour nous un enseignement. Qui aime le péril y périra, c'est-à-dire c'est la présomption. Saint-Pierre, avant, en notre Seigneur, oui, moi j'irai, je vais partir, je vais mourir avec vous, etc. Vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, c'est l'exemple de notre fragilité. Alors que Saint-Pierre, au lieu de rentrer, il aurait dû peut-être rester dehors ou suivre autre chose. Non, il va jouer avec le péril. Et pour nous, c'est un exemple de notre fragilité. Pour nous, c'est un motif de crainte. Donc, ne pas se fier à soi-même. Suivre Jésus, non pas de loin, mais de près. Donc, attention à la présomption. Attention à la présomption. C'est classique. Je pense que vous êtes certainement plus ou moins toutes confessées. Eh bien, le démon nous attend souvent après une confession. Parce qu'on a pu faire une très bonne confession. Alors, c'est vrai, on a la paix de la conscience. Le bon Dieu, comme je l'ai dit, descend dans notre âme. On a une paix de conscience. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se sent fort. Ah, maintenant, je suis fort. C'est vrai, maintenant, j'ai compris, j'ai l'horreur du péché, je me sens fort. Et on baisse la garde. Au lieu d'être en garde, on baisse la garde. Et alors, on risque de se mettre en péril de péché. On va retrouver les occasions nécessaires. Et de nouveau, on retombe. Et oui, parce qu'on a été présomptueux. Donc, Saint-Pierre, pour nous, est un exemple. Attention à la présomption. Qui aime le péril, qui aime le danger, y périra, nous dit la Sainte Écriture. Voilà Saint-Pierre, donc, qui va pleurer, qui va regretter son péché. Bien sûr, grande différence par rapport à Judas. Lui, Judas, quand il va voir que notre Seigneur a été condamné, il va revenir au temple, il va jeter les pièces, les 30 deniers, c'était le prix qu'on donnait pour la mort d'un esclave. Il va jeter ses pièces et puis il va aller se pendre. Pourquoi? Parce que Judas a été pris de remords, mais non pas de repentir. Il a refusé le pardon. Il a refusé la grâce. Toutes les grâces que notre Seigneur lui faisait, il les a refusées. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a refusé la grâce. Il refuse, refuse, refuse. Non, non, non. Eh bien, quand on refuse la grâce, on tombe dans le désespoir. Hein, donc, ne jamais refuser la grâce. Et surtout, il a fait ce qu'on appelle un des péchés contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire il n'a pas cru à la miséricorde de Dieu. Il a refusé la miséricorde de Dieu. Vous voyez, ces deux grands exemples, Saint-Pierre et Judas. L'un pêche gravement, il est pape. Vous voyez, il pape. Premier pape, il renie son maître, ça commence bien. Mais, entre parenthèses, il est toujours pape. Il reste pape. Donc notre Seigneur, après, va lui faire réparer sa faute par ces trois Pierre même tu, hein, qu'après sa résurrection. Mais notre Seigneur n'a pas dit, bon, écoute, t'es plus pape, maintenant je prends Saint-Jean. Non, il reste pape. Bref, ça c'est une parenthèse. Sanhédrin, ensuite, donc notre Seigneur va passer la nuit en prison. Et évidemment, le Sanhédrin de nuit était totalement illégal. La loi interdisait de siéger la nuit. Mais pour les Juifs, quand il s'agissait de condamner notre Seigneur, ce n'était pas un problème. Alors, comme ils sont quand même un peu légalistes, ils vont réunir de nouveau le Sanhédrin en début de matinée, au lever du jour. Et ils vont recommencer le simulacre de procès. Évidemment, ils vont recondamner notre Seigneur. Mais c'est légal, on l'a fait de jour, donc c'est légal maintenant. Ensuite, évidemment, ils vont vouloir mettre à mort notre Seigneur, mais là, seul Pilate, procurateur romain, avait droit de vie et de mort. Donc, ils étaient obligés de passer par Pilate. Bon, je vais passer un peu plus rapidement. Ils vont tout employer, les Juifs, pour obtenir la condamnation de notre Seigneur. Ils vont le traiter d'imposteur, de révolutionnaire. Oui, il ne paye pas l'impôt, le tribut à César. Nous sommes l'ami de César. Tu pars, mon œil. Hein, ils prennent tout ce qu'ils peuvent, tous les arguments pour essayer de vaincre Pilate. Pilate, lui, le pauvre vieux, il ne sait pas trop ce qu'il tombe dessus. Il dit, oh, encore un coup des Juifs, il m'agace. Moi, je voulais dormir, il est tôt, qu'est-ce qu'ils viennent faire, etc. Donc, il est un peu peureux, Pilate, parce que c'est la fête de Pâques, tous les Juifs viennent à Jérusalem. Lui, son rôle, c'est de maintenir l'ordre dans Jérusalem. L'Empire romain est là, il représente l'Empire romain, ces Juifs sont durs à tenir, etc. Donc, il a un peu peur, il n'aime pas trop ces rassemblements, etc. Donc, il va essayer de se défiler. Bon, il voit que notre Seigneur, a priori, il parle un peu avec lui, il dit, bon, cet homme, il n'a rien fait. Pilate, il connaît quand même un peu la nature humaine, et il sait ce que c'est que des bandits. Quand il voit notre Seigneur, il parle un peu, il dit, lui, c'est pas un bandit, lui, non, certainement pas. Donc il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est certainement par jalousie. Alors Judas, Pilate, il va essayer de se laver les mains. Il dit, tiens, Galiléen, ah, c'est pas moi, c'est Hérode. Il l'envoie chez Hérode. Notre Seigneur ne va rien dire à Hérode. Hérode, c'est le dépravé, c'est l'impudique, c'est celui qui veut s'amuser avec notre Seigneur, celui qui veut des miracles, notre Seigneur ne dira rien. Rien, rien. Donc Hérode est déçu de pas avoir pu jouer avec notre Seigneur. Il le renvoie à Pilate. Pilate ne sait plus trop quoi faire. Ah oui, Barabbas, c'est vrai, il faut qu'on leur délivre un prisonnier. Bon, Barabbas, c'est une ordure, ce gars-là. Donc on va quand même, en mettant les deux en parallèle, ils vont certainement choisir quand même ce Jésus. Mais ils ne savaient pas qu'entre-temps, les princes des prêtres, eux, ils savent manipuler les foules. Ils ont dit aux foules, eh bien, vous criez Barabbas, hein, vous demandez la délivrance de Barabbas. Et quand Pilate veut dire, bah, qui vous joue délivre Jésus, Barabbas? Barabbas! Il dit, attendez, j'ai mal compris. Vous voulez qui? Qui ça? Barabbas. Et lui, qu'est-ce que je vais faire? Bah, crucifie-le! Ah, il ne sait plus quoi faire. En plus, il y a sa femme qui va le trouver. Écoute, j'ai souffert cette nuit avec ce juif, surtout qu'il n'y a rien entre toi et lui. Ah, Pilate, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis les juifs derrière, mais si, crucifie-le. Alors, il dit, bon, je ne trouve rien dans lui, mais je vais le faire flageller. Bon, ben, s'il est innocent, pourquoi le faire flageller alors? Et Pilate va le faire flageller. Flagellation de notre Seigneur. Ça, ce n'était pas un amusement, c'était une flagellation romaine. Flagellation, chez les Juifs, c'était 39 coups. 40 moins 1, c'était 40 maximum, mais pour être sûr de ne pas dépasser, ils en donnaient 39. Chez les Romains, ça n'existait pas. Donc, notre Seigneur va être flagellé avec des fouets romains, donc avec des osselets à la bout des lanières, ce qui va déchirer notre Seigneur. Vous avez vu le Saint-Suaire, vous avez sans doute lu, on dénombre jusqu'à un peu plus d'une centaine de coups, 120 coups. 120 coups, on sait que je crois celui qui était à droite a frappé plus fort que celui qui était à gauche. Bref, on arrive à savoir beaucoup de choses. Terrible supplice. 120 coups déchirés, notre Seigneur est en sang. Notre Seigneur est en sang. Et en plus, ce qui ne s'est jamais vu, c'est le seul cas qu'on ait vu, ils vont mettre une couronne d'épines. Ils ont dû se dire, oh, on le croit, il paraît que c'est le roi des Juifs. Ah, roi des Juifs, tiens, on va s'amuser. On va lui mettre une couronne, des épines. Pas des petites épines de ronces de chez nous. Vraiment des épines de là-bas. Et c'est un casque qui vont lui enfoncer ça sur la tête. Oui, c'est un homme de douleur dont parlait Isaïe tout à l'heure. Notre Seigneur est devenu un homme de douleur. Vous savez, par cette flagellation, la tradition y voit l'expiation de toutes nos fautes de sensualité, d'impureté. Donc là aussi, il est bon, quand on est peut-être tenté dans ce domaine-là, eh bien de méditer cette flagellation de notre Seigneur. Qu'est-ce que notre Seigneur a subi pour réparer toutes ces fautes ? Couronnement d'épines, la tradition y voit l'expiation de nos fautes d'orgueil. Orgueil. Alors qu'ils vont le couronner d'épines, il va se laisser faire, ils vont fléchir le genou. Salut Christ, etc. Ils vont lui cracher dessus, etc. Lui qui est Dieu, lui qui est roi. Et nous, on n'est pas grand-chose. Alors, nos fautes d'orgueil, expiées par ce couronnement d'épines. Notre Seigneur revient dans cet état lamentable. Pilate va dire, « Ecce homo, voici l'homme. » Il pensait attirer la compassion des foules, mais ça ne va faire qu'au contraire raviver l'aspect sanguinaire. « Crucifie-le !» Alors Pilate en a assez. Et en plus, il entend, « Si tu le délivres, tu n'es pas l'ami de César !» Ça, c'était la menace politique. On est bien placé, on te fait sauter. « Ah non, surtout pas ça, surtout pas ça !» Alors Pilate va dire, « Bon, bah, écoutez, puisque c'est comme ça, je vous le livre, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je me lave les mains, je suis innocent du sang de ce juste. »« Oui, que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Comment dire ensuite que les Juifs sont innocents ? Alors, il faudrait vraiment réécrire l'Évangile. Non, c'est vraiment les chefs des Juifs qui l'ont condamné en tant que tel, en tant que chef du peuple juif. Oui, c'est eux qui ont condamné notre Seigneur. Et quand on dit qu'ils ont été déicides, c'est la réalité. Je ne vois pas comment on peut dire les choses autrement. Bon, il faut prier pour leur conversion, c'est évident. Mais ne voilons pas la réalité, ne falsifions pas la réalité telle qu'on le fait aujourd'hui. Non, ce sont les Romains qui ont condamné. Les Romains ont été la cause matérielle, parce qu'il fallait passer par eux pour crucifier notre Seigneur. Mais si les Juifs n'avaient pas demandé à Pilate de le crucifier, jamais notre Seigneur n'aurait été crucifié. Et vous voyez bien, Pilate a tout fait pour essayer, c'est un lâche, certes, il est coupable, c'est sûr, mais il a tout fait pour le délivrer. Et puis ensuite commence le chemin de croix. Mais ce chemin de croix, je ne vais pas le commenter, vous le suivrez par vous-même. Donc, aimons à contempler cette passion de notre Seigneur. Puis même en faisant en fait le chemin de croix, contempler les sept paroles de notre Seigneur en croix, là aussi il y a beaucoup d'enseignements. Mais voyez, dans votre chapelet, quand vous méditez les mystères douloureux, l'agonie de notre Seigneur, la flagellation de notre Seigneur, couronnement d'épines de notre Seigneur. Après, quand on contemple vraiment, on a du mal à avoir des distractions. On dit son chapelet, et puis on contemple, on voit ces scènes. Alors comment être distrait après ? Alors méditons donc souvent cette passion de notre Seigneur pour pleurer nos péchés. Et c'est le bon moyen de renoncer à tous nos péchés. Et promettons ainsi à notre Seigneur de l'aimer désormais comme il nous a aimés, c'est-à-dire sans mesure. Et demandons cette aide à Notre-Dame. Sainte Mère de Dieu, imprimez profondément dans mon cœur les saintes plaies de Jésus crucifié. Ainsi soit-il. Nous allons chanter complice.